Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour la dernière émission de la saison. On précise, on sera de retour bien sûr sur l'antenne au mois de septembre. Mais la dernière émission de la saison pour la défense et la promotion des droits humains. Puisque c'est bien sûr, comme vous le savez tous et toutes, notre raison d'être. Et pour animer l'émission ce soir, dans la chaleur du studio, pour ne rien vous cacher, parce qu'il fait très très chaud là sous les toits, dans le bâtiment de Principes Actifs. Et donc, dans la chaleur du studio, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a Dominique.
Bonsoir.
Mais nous, on est fraîches. Hein.
Oui.
Pas toi, mais nous, oui.
Ah ben voilà.
Vas-y, continue.
Ça y est, ça commence. On commence à me dire que je ne suis pas frais. Voilà, je m'en rappellerai. Non, c'est une plaisanterie, bien sûr. Donc, pour commencer l'émission, en vous souhaitant, mais on vous le redira à la fin, de très bonnes vacances. Profitez-en bien, profitez pour vous reposer, pour faire tout ce que vous avez envie de faire ces mois de juillet, août, en espérant que vous serez en situation pour prendre des vacances. Je voulais vous dire quelques mots. Moi, j'étais, en tant que responsable du groupe d'Évreux, délégué à l'Assemblée Générale d'Amnesty France, qui a eu lieu le week-end dernier, à Valence, où il a fait très chaud aussi, c'était en pleine canicule. Heureusement que le palais des congrès était climatisé. Bon, c'est pas très écologique, mais c'est plus supportable quand on est enfermé pendant 2 jours. Et donc, ça, c'était le commentaire sur la justice climatique. Je vous en reparlerai aussi tout à l'heure. Et donc, on a eu plusieurs conférences qui étaient toutes très intéressantes, mais il y en a une qui a retenu mon attention, je vais vous en dire quelques mots, sur la répression des défenseurs de l'environnement, justement. Et c'est une conférence, qui était animée par Marion Guess-Lucchini, activiste et porte-parole d'Action Justice Climat. Et c'est surtout ses propos que j'ai notés. Il y avait aussi Marion Furones, pour ceux qui connaissent, qui fait partie de Global Witness, et Marie-Christina Colo, qui est une activiste écoféministe de Madagascar, quelqu'un qui est extrêmement dynamique et qui s'est fait applaudir très longuement. Voilà. Mais donc, pour en venir à ce que disait donc Marion, elle expliquait qu'effectivement, prendre la défense des défenseurs de l'environnement, ce qui est le cas de son association, entre autres, puisqu'ils luttent pour la justice climatique eux aussi, c'est de plus en plus compliqué. Bon, les pays, effectivement, répriment de plus en plus les défenseurs de l'environnement. Bah oui, au niveau des autorités, quand on est incapable de prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, et on le voit encore en ce moment ce qui se passe, eh bien, on réprime, voire pire, les gens qui en parlent. Voilà. Faire taire, ça a toujours été la solution. Mais c'est pas en faisant taire les gens que ça trouvera une solution par rapport au climat. C'est bien évident. Donc à l'heure actuelle, par exemple, Action, je ne vais pas écorcher le nom de son association, où est-ce qu'elle est ? Action Justice Climat, donc a été inculpée parce qu'ils font beaucoup des actions qui ne sont pas légales, entre guillemets, mais non violentes.
Des résistances pacifiques.
Oui, c'est ça. Voilà. Ils ont, entre autres, une des dernières qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tagué, avec de la peinture lavable et bio, mais ils ont tagué plein de devantures à Paris, de devantures de la BNP, puisque la BNP continue à investir massivement dans les industries et dans les industries extractives.
Pétrole, ils ont fait du greenwashing.
C'est ça. Donc la désobéissance civile, voilà ce que je voulais dire. Donc ils en font beaucoup, et à l'heure actuelle, ils sont en procès par rapport à ça, enfin leurs militants, et elle citait la somme pour l'instant, ils ont dû investir 70 000 euros en frais de justice pour défendre effectivement leurs militants qui sont sous le coup. Alors elle expliquait que c'était une répression aussi ici en France, bien sûr, pour essayer de faire taire les gens. C'est pas une répression policière pour les empêcher de parler, mais une répression via la justice, qui est de plus en plus insensible au terme de défense des droits, a-t-elle dit. Et bon, alors après, il y a eu pas mal de commentaires aussi sur cette répression au niveau international, donc des défenseurs de l'environnement. Ils disaient qu'au moins 40% des personnes concernées par cette répression, y compris les assassinats, concernent les peuples autochtones qui luttent contre l'accaparement de leurs terres, les industries extractives, etc., etc. On rappelle que nous, on lutte en ce moment pour les droits des Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, au Canada. Donc c'est un exemple, effectivement. Mais elle a conclu, puis je vais m'arrêter là, elle a conclu son intervention sur des notes effectivement plus positives, en disant que bah, il fallait effectivement continuer à agir, bien évidemment, qu'il fallait mettre en avant tout ce qui est agréable dans le fait d'agir, hein, les côtés relationnels, les côtés amicaux, enfin, etc., faire la fête. Elle a cité cet exemple-là. Oui, ils la font régulièrement, surtout quand ils ont fait des actions de désobéissance civile. Donc faire la fête, et que continuer à agir, c'est déjà une victoire en soi, ce qui n'est pas faux. Elle a pris aussi un exemple, c'est pour essayer de convaincre dans les manifestations. Et là, ils ont participé, eux, aux manifestations contre la réforme des retraites, c'était l'année dernière, je crois, si j'ai bonne mémoire, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, en disant, sous le slogan, « Eh ben, pas de retraite sur une planète brûlée ». Donc, discuter de 62 ou 64 ans, si la planète, effectivement, devient invivable, ça n'a plus aucun sens. Donc, d'essayer de convaincre les gens par des slogans aussi simples que ça. Et elle a terminé en disant que on devait continuer à résister, bien évidemment, encore plus que maintenant, nous opposer, être réactif, faire de la résistance de proximité pour convaincre les gens autour de nous. Elle a dit qu'il fallait surtout commencer par ça. Il fallait continuer à dire la vérité, parce que c'est nous qui disons la vérité, et c'est pas les gens qui nous répriment, expliquer et convaincre. Voilà. Donc c'est des grands slogans qui seront repris aussi par Amnesty. Bon, je vais m'arrêter là pour cette petite compte-rendu très rapide d'une conférence, mais Amnesty a également, à la suite de cette conférence, dit qu'il y aurait beaucoup d'actions à partir de cet été, et surtout à la rentrée, par rapport à la justice climatique, et pas que, et qu'on allait appeler les militants d'Amnesty à s'investir de plus en plus, et c'est nos notions de désobéissance civile qui sont dans les tuyaux d'Amnesty depuis déjà pas mal d'années, depuis 3 ou 4 ans, on va sans doute passer à un niveau supérieur dans les mois qui viennent. Voilà. Donc restez à l'écoute de nos émissions pour être informés de tout ce qu'on fait, on vous le redira. Voilà, et je crois que je vais laisser la parole à Clarisse qui va vous en dire plus sur ce qu'elle voulait, sur le sujet qu'elle voulait aborder.
Alors, je vais vous parler de l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, pour beaucoup de personnes, ça fait référence quand même, c'est une référence historique, hein, et c'était le général de Gaulle qui avait appelé les Français à entrer en résistance et à résister, entre autres, à l'envahissement par les nazis en France, et par tous les moyens. Et donc c'est beaucoup repris par un parti politique qui s'appelle le Parti Républicain, qui se revendique beaucoup du général de Gaulle. Et nous avons un nouveau président du Parti des Républicains, qui est notre ministre de l'Intérieur, qui s'est fait son appel du 18 juin à lui, monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Il a lancé une vaste opération nationale de contrôle d'identité, qui s'est étalée sur 2 jours, les 18 et 19 juin, donc la semaine dernière, et intitulée de façon pléonastique « Lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine ». Donc, cette chasse aux migrants, il faut bien le dire, c'est un petit peu ça, c'était une chasse aux migrants dans les gares, qui a mobilisé plus de 4000 policiers et gendarmes. Donc, le ministre de l'Intérieur a mis en branle une opération dans les gares et les bus, avec des gendarmes, des policiers, des douaniers, des forces sentinelles, pour interpeller les clandestins. Donc une chasse aux exilés qui s'est poursuivie le lendemain, le jeudi, qui a été vivement dénoncée par les partis de gauche, par les syndicats et par les associations de défense des droits humains. La chasse aux migrants, ordonnée outre-Atlantique par Donald Trump, et les descentes de l'ICE à Los Angeles, auraient-elles donné des idées à monsieur Bruno Retailleau ? Donc le ministre de l'Intérieur n'a sans doute pas eu besoin d'une telle inspiration pour mettre en branle une opération massive, c'est mercredi 18 juin et jeudi 19 juin. Il a déclaré que de toute façon c'était fait pour interpeller les personnes qui n'ont rien à faire en France. Il a entendu jouer à fond la carte de la communication puisqu'il s'est bien... Il s'est rendu dans la foulée Gare du Nord, à Paris, pour assister à certains de ses contrôles, revendiquant avec fierté 47 000 interpellations depuis le début de l'année. Donc la politique du chiffre conduite au détriment des vies humaines en jeu se retrouve ainsi dans la note interne adressée par le ministre au préfet. Le patron des Républicains célèbre dans son document, consulté par l'AFP, une augmentation conséquente d'interceptions d'étrangers en situation irrégulière, les ESI, et ces dernières semaines, plus 28%, et une opération nationale de contrôle des flux ayant conduit à plus de 750 arrestations au mois de mai. Alors, plusieurs syndicats, donc CGT, Solidaires, FSU, ainsi que le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, ont dénoncé une opération xénophobe prenant pour bouc émissaire les plus précaires. Il y a aussi une réaction d'avocats, donc des avocats que je connais bien, puisque au niveau de l'association CFED Astide Évreux, on est souvent en contact avec le cabinet Eden Avocat à Rouen. Et il y a eu des déclarations publiques de Vincent Souty, qui est avocat au barreau de Rouen, membre du syndicat des avocats de France, et qui souligne le fait que les centres de rétention administrative sont réservés en priorité aux personnes qui troublent l'ordre public. Et donc, arrêter les gens comme ils l'ont fait les 18 et 19 juin et les mettre en centre de rétention alors qu'ils sont juste en situation irrégulière, mais ils ne font pas de troubles à l'ordre public, c'est de l'esbroufe, c'est de l'intimidation, et ça fait du chiffre de manière stupide, souligne l'avocate Cécile Madeline, qui, pour elle, il y a un de ses clients qui a été arrêté mercredi alors qu'il se rendait chez lui. Il n'a rien à faire dans un centre de rétention, il est vendeur sur les marchés, il est en train de monter un dossier de régularisation avec son avocate, il a un appartement, une femme, 3 enfants scolarisés, il ne présente aucun danger pour l'ordre public et pourtant il s'est retrouvé en centre de rétention. Et puis, on a été alerté aussi par nos amis du réseau d'éducation sans frontières. Donc Thierry Catan, qui est le responsable du groupe sur Évreux, nous a envoyé un mail. Je vais vous communiquer en fait ce qu'il nous a écrit. Donc mercredi et jeudi dernier, notre ministre de l'Intérieur a décidé d'occuper nos bons agents de police à effectuer des rafles de migrants dans les gares. Le jeune Ousmane, Donc un ancien mineur non accompagné qui est hébergé par le réseau d'éducation sans frontières et pour lequel le RSF était en train de monter un dossier de régularisation puisqu'il avait atteint ses 18 ans, il a été malheureusement pris dans ses filets. Résultat, il a passé une nuit à la police aux frontières de Rouen et le lendemain matin, il a reçu une obligation à quitter le territoire français. Et dans l'après-midi, il était conduit manu militari à Rouen en centre de rétention. Il est passé devant le juge aux libertés le lendemain matin et toutes les attestations qui avaient été fournies par le réseau d'éducation sans frontières, donc attestation de suivi, attestation d'hébergement, de soutien, d'intégration, puisque ce sont des jeunes qui sont scolarisés par le RESF et qui ont souvent de très bons résultats en classe. Toutes ces attestations, rien n'y a suffi. Il restera en centre de rétention au moins 28 jours. Et après, qu'est-ce qui va lui arriver ? Ousmane est un jeune homme particulièrement serviable et respectueux. Tous ceux qui l'ont rencontré témoignent de sa politesse et de sa bienveillance. Il a même été repéré par un employeur qui n'attend que de pouvoir l'embaucher, qui attendait qu'il soit régularisé pour pouvoir lui faire un contrat de travail. Donc il faut le dire, il faut en parler autour de nous, il faut se mobiliser comme on peut, là où on peut. Les lois contre l'immigration qui s'imposent peu à peu ne s'attaquent pas à la délinquance ou à je ne sais quel extrémisme, mais à des personnes souvent admirables de courage et de dignité. Ce sont tout ce qu'ils peuvent choper dans la rue, ça n'a rien à voir avec forcément des délinquants ou des gens qui font des actes terroristes. Donc ces personnes, elles essayent de s'intégrer, elles sont respectueuses des règles de vie avec nous. Et surtout, il faut en parler, il faut dénoncer ce qui est en train de se passer. Ne laissons pas la barbarie s'installer sans bruit. Voilà. Donc ça, c'était en gros le communiqué de Thierry Catan pour le collectif RESF 27, dont on vous parle souvent, qui fait partie du collectif Solidarité Migrants de l'Eure. Et je vous rappellerai aussi les mots quand même du préfet de l'Eure, quand on l'avait vu le 15 mai, qui avait dit qu'ils avaient une certaine bienveillance envers les dossiers des mineurs non accompagnés quand on demandait leur régularisation. Je ne sais pas où est la bienveillance dans les actions de l'appel du 18 juin de M. Retailleau.
Oui, mais enfin, tu sais, mais Clarlise, il est bien connu que c'est comme les promesses, hein, ce genre de mots, ça n'engage que ceux qui les écoutent. Donc voilà. Et puis bon, par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, c'est aussi une application de ce principe bien connu, hélas, depuis très longtemps. Quand on veut, alors c'est une image, hein, bien sûr, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc quand on veut se débarrasser de quelqu'un, ben, on l'accuse effectivement d'être, comment dire, une porte ouverte au terrorisme, à la délinquance, enfin, etc., etc. Ça me rappelle aussi les mots qu'avait utilisé un homme politique, Zemmour, pour ne pas le nommer. Il n'y a pas si longtemps, je crois qu'il il a été jugé ou il est toujours en justice par rapport à ces mots-là, parce que c'est un délit de dire ça. Mais il avait dit effectivement que les mineurs non accompagnés, justement, n'étaient que des voleurs et des violeurs et qu'ils n'étaient que, ils n'étaient que ça. Voilà.
Enfin, là, ils ont arrêté plein de gens, même des majeurs. Ils ont chopé quelques jeunes. D'ailleurs, c'est un jeune majeur, puisqu'on est en train de faire son dossier de régularisation, Ousmane. Mais ils ont chopé tout ce qu'ils pouvaient. Et forcément, c'est du délit de faciès aussi, parce que c'était des étrangers.
Oui, tout à fait. Et on rappelle aussi qu'Amnesty fait partie de l'action, même si pour l'instant le Conseil constitutionnel a un peu fermé la porte, mais de l'action avec d'autres associations vis-à-vis de l'État français que l'État français prenne des mesures pour faire cesser les contrôles aux faciès, justement. L'action n'est toujours pas finie, hein, même si le Conseil constitutionnel, pour l'instant, a botté en touche. Voilà. Je crois que Dominique, elle voulait vous parler de... Alors, je ne sais pas du tout, c'est dans une émission d'Amnesty, elle veut parler de canaris dans une mine. Quel rapport avec les droits humains, elle va vous le dire.
Eh bien, tout de suite, oui.
Faut que tu parles dans le micro, Dominique.
Donc, c'est un article qui est dans la chronique de ce mois-ci, et c'est un article de Pierre Aski. Donc, Kilmar Armando Abrego Garcia, retenez ce nom. Il est devenu le symbole de la dérive autoritaire de l'administration Trump. Cet homme de 29 ans, père de 3 enfants, ouvrier métallurgiste, a été arrêté en mars dernier dans l'État du Maryland lors d'une rafle menée par des agents fédéraux américains contre des membres présumés du gang violent MS-13, originaire d'Amérique centrale. Il a ensuite été expulsé manu militari vers une prison au Salvador, et pas n'importe laquelle, le CECOT, centre de confinement du terrorisme, une prison à sécurité maximale abritant environ 40 000 prisonniers, ce qui, sous le régime du président Nayib Bukele, prend une dimension encore plus sinistre que son nom pourrait laisser entendre. Comment repère-t-on un membre du MS-13 ? Par ses tatouages caractéristiques, qui peuvent exposer toute personne tatouée au risque d'être injustement assimilée au gang. Et c'est ce qui est arrivé à Kilmar Armando Abrego Garcia. Un juge américain a reconnu l'erreur et ordonné que le jeune père de famille, sans histoire, soit libéré et ramené au sien aux États-Unis. Un jugement conforté par une décision unanime de la Cour suprême américaine. Et c'est là que la dérive de l'administration Trump prend une tournure plus inquiétante. Elle refuse d'appliquer la décision de justice. Plus grave encore, lors d'une mise en scène télévisée, dont Donald Trump a le secret, dans le bureau ovale, Nayib Bukele, le président salvadorien, star de la galaxie MAGA, Make America Great Again, pour sa lutte contre la criminalité et peu soucié des principes de l'état de droit, a déclaré catégoriquement qu'il ne pouvait pas libérer Kilmar Armando Abrego Garcia. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Ce n'est peut-être qu'un cas isolé au milieu d'une série de gestes arbitraires dans le cadre d'une politique anti-immigration visant à faire du chiffre après avoir servi de levier électoral. Mais c'est dès la première entorse à l'état de droit qu'il faut s'inquiéter, protester et résister. Car l'état de droit est la clé de voûte de tous les droits, et la justice reste le contre-pouvoir ultime empêchant un pays, comme les États-Unis, de tomber dans ce que l'on appelle désormais l'illibéralisme, ou pire encore, l'autocratie. Ce n'est pas un hasard si la réforme de la justice figure très haut dans l'agenda de tous les pouvoirs au penchant autoritaire, comme on l'a vu en Pologne hier, en Hongrie aujourd'hui, plus récemment en Israël. Si un gouvernement d'un pays démocratique refuse d'appliquer une décision de justice, c'est le canari dans la mine. Un signal d'alarme annonçant les catastrophes à venir. Kilmar Armando Abrego Garcia doit être libéré de la sinistre prison salvadorienne, ainsi que l'a décidé un juge américain. Tout refus prolongé d'obtempérer annoncerait des temps difficiles pour les États-Unis et le monde.
Merci Dominique.
T'as compris le canari ?
Oui, j'ai compris le canari, effectivement. Et ça fait tout à fait le lien aussi avec la répression anti-migrants entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Voilà, ce sont les deux faces de la même médaille. Et de toute façon, ça ne conduira jamais à rien de positif pour personne. Voilà. Et y compris pour les gens qui votent pour, aux élections, pour des gens qui représentent ce genre de tendance. Effectivement, même pour eux, ça ne leur apportera rien. Il faut bien qu'ils le comprennent. On va passer tout de suite à la première pause musicale, puisque c'est l'heure. Pour une fois, on est pile poil à l'heure.
Donc, ça ne va pas durer, je vous le dis.
Ça ne va pas durer, mais on est à l'heure. Donc on vous passe la première pause musicale. On se retrouve juste après.
Before seen him hanging round my door like a hawk stealing for the prey, like the night waiting for the day. Shadows me back home. Footsteps echo on the stones. Rainy night on Haussmann Boulevard. Parisian music drifting from the bars. Thank you.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission, Défense et promotion des droits humains. C'est une chanson qui s'appelle I've Seen That Face Before. C'est une reprise par une chanteuse sud-coréenne qui s'appelle Yoon Sunna. Et c'est une petite dédicace personnelle à Juliane, qui a milité très très vivement avec nous il y a quelques années, qui maintenant est à Paris, mais que j'ai vue ce week-end à l'Assemblée Générale d'Amnesty, et qui est une, elle-même une danseuse de tango. Voilà. C'est moi qui vais garder la parole, puisque je l'ai, donc ça tombe bien. Et je vais vous parler d'un sujet qu'on n'a pas eu le temps de faire à la dernière émission, et parce qu'on est régulièrement attrapé par la pendule, mais je crois que c'était, on n'a jamais dû en parler depuis qu'on anime ces émissions d'Amnesty, ça fait des années et des années, et qui est consacrée à l'engagement d'Amnesty International contre la répression syndicale. Il y a effectivement une chronique Amnesty France qui s'appelle la chronique syndicale. Vous pouvez la retrouver en ligne sur le site d'Amnesty France, vous tapez chronique syndicale et vous allez tomber dessus. Et voilà ce que dit la dernière, qui est parue au mois de mai à l'occasion de la fête du travail du 1er mai. Dernièrement encore, Amnesty rappelait que le droit d'adhérer à un syndicat ou d'en créer un est une forme d'organisation autonome et fait partie du droit à la liberté d'association, à la liberté syndicale et à la négociation collective. Diverses sections d'Amnesty International sont engagées dans la défense du droit syndical. Amnesty au Royaume-Uni a constitué un réseau Trade Union Network. AI France a mis en place une commission syndicat dès la fin des années 90 et a noué un partenariat avec 7 syndicats. Il s'agit en effet de combiner ses forces pour être plus efficace dans la défense des droits humains et en particulier des droits syndicaux et sociaux du travail. Amnesty et ses sections sont engagées dans des actions aux côtés des ONG et des syndicats. Le 4 février 2025, dans une lettre adressée conjointement à la présidente de la Commission européenne, Amnesty s'est jointe à 162 organisations de la société civile et syndicats européens pour demander à l'Union européenne d'interdire le commerce et les activités commerciales avec les colonies illégales d'Israël dans les territoires palestiniens occupés, afin de se conformer à ses obligations juridiques telles qu'énoncées par la Cour internationale de justice. Petit commentaire personnel, quand on sait l'actualité actuellement à Gaza, on s'aperçoit effectivement que c'est tout à fait cohérent. En France, début 2024, Amnesty a signé une tribune dans la presse avec 30 organisations et les syndicats CGT et Solidaires pour dénoncer la loi remettant en cause le droit d'asile et les droits des personnes étrangères. Ça fait aussi un lien avec ce qu'on vient de dire. En 2022, la CFDT, la CGT et l'UNSA s'étaient jointes à la campagne d'Amnesty France pour appeler à ramener la Coupe du Monde de foot au Qatar, on en avait parlé à l'époque, à la raison, et exiger l'indemnisation des familles des victimes des chantiers, la protection des travailleurs migrants et le respect des droits humains des prestataires de services. Tout ça au Qatar, bien sûr. Dès 2015, plusieurs ONG, dont Amnesty, avait défendu avec la CFDT et la CGT le projet de loi sur le devoir de vigilance à l'Assemblée. Projet de loi qui est bien mis à mal en ce moment. Amnesty se bat aussi avec ses sections, au travers de ses prises de position et de ses campagnes, pour défendre les syndicalistes et les travailleurs qui subissent la répression, contre l'interdiction des célébrations du 1er mai à Istanbul, pour que les autorités en Eswatini, c'est un petit état au sud de l'Afrique, cesse d'utiliser les tribunaux pour intimider et harceler des syndicalistes, pour dénoncer le fait que les autorités manquent à leur devoir de protéger les grévistes contre les représailles en Égypte, pour protester contre la dissolution d'un syndicat enseignant à Hong Kong, ou le fait que les syndicats indépendants soient pris pour cible au Bélarus, contre les atteintes aux droits syndicaux dans les entrepôts d'Amazon aux USA, ou pour que les travailleurs et les travailleuses d'Uber soient reconnus comme salariés au Royaume-Uni, etc. Voilà, c'était un petit résumé de ce que fait Amnesty au niveau syndical, c'est très bref. La chronique est beaucoup plus longue, donc je vous renvoie sur le site d'Amnesty, encore une fois. Ça s'appelle « Défendons les droits du travail et les droits syndicaux ». C'est la dernière chronique syndicale d'Amnesty France, et vous la retrouvez en intégralité sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Voilà. Donc on va passer à la suite de l'émission, et je crois que c'était Clarisse qui devait reprendre la parole.
Mais je vais encore vous parler du 18 juin. Je fais une fixation sur cette date.
Il faut croire.
Donc le 18 juin, il s'est pas passé que des choses négatives. Donc la proposition de loi adoptée le mardi 1er juillet 2025, nationale, par rapport à, au fait de c'est une proposition de loi sur le consentement. Et donc cette proposition de loi, elle avait été adoptée le 1er avril 2025 à l'Assemblée nationale. Il faut rappeler quand même qu'elle a été proposée par les députés Véronique Rioton et Marie-Charlotte Garin. Et cette proposition de loi, justement, elle a été débattue au Sénat le 18 juin 2025. Donc 16 États membres de l'Union européenne ont déjà introduit cette notion de consentement dans leur législation. L'Allemagne, la Belgique, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et la Suède. Donc autant dire qu'on n'est pas complètement en avance par rapport à ça. Et donc ce mercredi 18 juin, les sénateurs et sénatrices se sont prononcés sur la proposition de loi introduisant la notion de consentement dans la définition pénale du viol, après son adoption par l'Assemblée nationale. Donc, en amont de ce vote, Lola Schulman, chargée de plaidoyer justice de genre à Amnesty International France, alerte. Nous appelons les sénateurs et les sénatrices à adopter cette modification du code pénal, à l'instar de l'Assemblée nationale qui a déjà voté en faveur, donc le 1er avril 2025. Le droit international est très clair. Un rapport sexuel sans consentement est un viol. Et la France est régulièrement montrée du doigt pour son retard sur ce sujet. Il est temps que la France adopte une législation en conformité avec ses engagements internationaux et rejoigne les 16 États membres de l'Union européenne qui ont déjà modifié leur loi en ce sens. Dans une société gangrénée par les violences sexuelles et imprégnée par la culture du viol, inscrire le consentement dans la loi serait un message fort envoyé à toutes les femmes et filles dans notre pays. Cela représenterait une grande avancée dans la lutte contre l'impunité perpétuelle qui règne dans les domaines des violences sexistes et sexuelles. Voilà. Donc, juste ça s'est passé donc, le 18 juin au Sénat. On n'en a pas trop entendu parler dans les médias parce qu'il y a d'autres sujets qui font le haut du panier en ce moment. Puis c'est bon, ça. Effectivement, l'appel du 18 juin de M. Retailleau, c'était plus médiatisé que ça, qui est quand même une. Si ça passe, c'est vraiment une décision de fond. Voilà.
Ok, bah on continuera.
Et on reparlera du 18 juin à la fin de la journée. Enfin, à la fin de l'émission.
De toute façon, on restera vigilant par rapport à comment évolue ce projet de loi, parce qu'évidemment, Amnesty est 150% pour ce projet de loi, bien évidemment. Et Dominique, qui a le secret des titres bizarres dans l'émission, qui nous a parlé de Canaries tout à l'heure, maintenant elle veut nous parler de La Roue Tourne. C'était pas le nom d'un jeu télévisé, ça, La Roue Tourne, il y a quelques années.
Non, c'est Tourner Manège.
Tourner Manège.
Ah non, pardon. Sinon t'avais La Roue de la Fortune.
La Roue de la Fortune.
Ouais, donc, aussi. Ouais.
Donc tu vas faire une émission de télévision, c'est ça, Dominique?
Bien sûr, c'est tout à fait ce que j'aime faire.
Vas-y.
Voilà. Donc, non, moi, je vais vous parler d'un député, Sébastien Pétavi, premier élu en fauteuil de la Ve République. Donc, ce monsieur, qui est né en 1982 en Dordogne, devient paraplégique à l'âge de 3 ans après une opération cardiaque qui tourne mal. Mais donc, il commence à vivre avec son fauteuil. Il découvre les galères quotidiennes des personnes à mobilité réduite. Mais rien de tout cela ne l'empêche de s'engager en politique. Conseiller municipal, candidat aux élections européennes pour Génération, le parti de Benoît Hamon, puis aux départementales. En 2022, il est élu député de Dordogne sous l'étiquette NUPES écologiste et il devient alors le premier député en fauteuil roulant. Il faut quand même que je vous dise quelque chose avant de continuer, que être homme handicapé et élu lui a valu d'être visé par un blog appelant au retour d'Action T4, un programme nazi d'extermination des personnes handicapées. Sébastien Pélavi a porté plainte en avril 2025 pour menace de mort.
Oh. Oui. On vit une époque formidable quand même, hein.
C'est un monsieur sportif. Et donc, Pour le Sébastien, pour lui, Sébastien Pétavi, comme pour le million de Français concernés, majoritairement des seniors, les fauteuils manuels ou électriques sont des extensions de notre corps. Et ce n'est pas un luxe que d'en avoir un adapté à nos besoins. Pourtant, depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, le remboursement n'a pas bougé d'un centime. Un fauteuil manuel, dont le coût peut atteindre 12 000 euros s'il est fabriqué sur mesure en fibre de carbone, n'est remboursé que 580 euros par la Sécurité sociale. Un fauteuil électrique coûtant jusqu'à 20 000 euros est remboursé 5 187 euros. Tant pis pour ceux qui ont besoin de fauteuils spécifiques, pilotés par un doigt, un mouvement du front ou du menton, dont le prix peut grimper jusqu'à 45 000 euros. Donc pour le financer, il faut multiplier les démarches auprès de sa mutuelle, de la maison départementale du handicap, au titre de la prestation de compensation du handicap, PCH, et patienter pendant des mois. Sébastien Pétavi, qui en est à son septième fauteuil, a fait les comptes. Le mien coûte 8 500 euros. La Sécu m'a donné 580 euros, la mutuelle, que je paye très cher bien sûr, 2 000 euros, et j'ai perçu 2 500 euros de PCH. J'ai donc dû rajouter 3 500 euros. Ceux qui n'ont pas les moyens en sont réduits à lancer des cagnottes en ligne. Beaucoup se résignent à acheter un fauteuil moins onéreux, même s'il est plus lourd, moins maniable, inconfortable, donc inadapté. Une situation qui provoque la colère d'Odile Morin, présidente et fondatrice de l'association Handisocial, qui lutte contre le validisme et défend les droits des personnes handicapées. Alors, le validisme... Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un système faisant des personnes valides la norme sociale. Par extension, cette notion désigne la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Donc, cette dame est aussi conseillère municipale à Toulouse et la qualité des fauteuils détermine notre capacité à participer ou à être exclue de la vie en société, affirme-t-elle. Et elle ajoute « Un mauvais positionnement sur un fauteuil peut avoir des conséquences désastreuses. Douleurs, escarres, déformations orthopédiques, troubles posturaux, troubles musculo-squelettiques, fatigue physique et ou émotionnelle. » Donc, en 2020, une mesure destinée à réduire le reste à charge des fauteuils roulants a été intégrée dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. L'APF France Handicap s'en empare aussitôt. On s'est tout de suite mis à travailler dessus, souligne Malika Boubaker, conseillère nationale de l'association. Avant de déchanter, nous avions des engagements au niveau de l'État, mais à cause des incessants changements de gouvernement, tout est resté en chantier. Le pire, ce fut ces longs mois de silence. Lors de la conférence nationale du handicap, le 26 avril 2023, le président Macron reconnaît que les fauteuils roulants coûtent cher. Il annonce qu'à partir de 2024, ils seront intégralement remboursés. Sébastien Pétavi, présent ce jour-là, sourit. Cela faisait des années que les associations ne voyaient rien venir. Et là, il sort cette annonce de son chapeau sans savoir vraiment dans quoi il se lance. Les négociations s'ouvrent entre l'assurance maladie, les fabricants, les distributeurs, mais tous peinent à s'accorder sur les prix encadrés. Le temps passe, rien ne bouge. Le 25 janvier 2024, Sébastien Pétavi interpelle le gouvernement en séance à l'Assemblée nationale. Ces derniers jours, les fabricants, prestataires et associations m'ont alerté sur les conditions de prise en charge tarifaire. Il y aurait bien une augmentation de la base de remboursement à 2600 euros pour les fauteuils manuels et à 18 000 euros pour les fauteuils électriques. Mais si un plafond du même montant était instauré, nous nous retrouverions alors dans une situation ubuesque où tous les modèles au-dessus de ces plafonds ne seraient plus remboursés du tout. Catherine Vautrin, alors ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, tente de le rassurer. Nous en sommes à la concertation. Le lendemain, le député de la Dordogne enfonce le clou et lance une pétition intitulée « Pour le remboursement des fauteuils roulants, respectez votre promesse, monsieur le président ». La pétition est signée par 70 000 personnes. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, les négociations s'arrêtent net. Un nouveau gouvernement est formé. J'ai insisté pour que les discussions reprennent au plus vite, affirme le député. Là d'attendre, il décide de forcer le passage et le 3 décembre, alors que l'hémicycle ne lui est toujours pas accessible, pas de rampe ni de monte-personne. Donc il faut savoir que le député de la Dordogne, l'élu de la, oui, de la Dordogne, ne peut atteindre le haut de l'hémicycle, puisqu'il n'y a ni ascenseur, ni... Donc il doit siéger aux côtés des ministres, au rez-de-chaussée, et non pas dans sa couleur politique. Donc Sébastien Pétavy se présente au pied de la tribune de l'Assemblée et prononce un discours cinglant. Vous, le gouvernement et la direction de la Sécurité sociale, avez pratiqué de la rétention d'informations. Vous m'avez mis la pression sur les associations et les propres députés de cet hémicycle pour s'opposer à l'étude de ce texte. Vous avez refusé tout dialogue avec moi. Puis il dégaine sa proposition de loi pour le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie. Les 200 députés présents la votent à l'unanimité. Donc c'est un beau pied de nez au gouvernement qui avait promis un décret avant la fin de l'année 2024. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre, François Bayrou, jure que les fauteuils roulants seront remboursés dès 2025. De son côté, dans une vidéo TikTok du 6 février, Emmanuel Macron évoque un remboursement effectif à partir du 1er décembre. Et le même jour, un arrêté publié au journal officiel annonce la création d'un guichet unique avec l'assurance maladie comme financeur exclusif, la réduction des délais de prise en charge à seulement quelques semaines et surtout un remboursement revalorisé de 580 à 6 300 euros pour les fauteuils manuels et de 5 187 à 21 000 euros pour les électriques. En cas de dépassement de ces plafonds, l'usager devra soumettre un devis au médecin conseil de la Sécurité sociale qui décidera s'il accorde ou non un supplément pour couvrir l'intégralité du coût. Sébastien Pétavy reste sur ses gardes. Quand la réforme sera appliquée, nous lancerons un appel à témoignages pour savoir si les devis sont rejetés et pour quel motif. Il faut maintenir la pression, ne rien lâcher, même après avoir renversé la table. Voilà, donc une bonne nouvelle pour les personnes handicapées.
Mais ce député a tout à fait raison quand il dit ne rien lâcher. Ça, c'est clair, c'est quelque chose qu'on connaît bien, Amnesty, ne rien lâcher. On va passer à la deuxième pause musicale dans quelques secondes. Juste avant, une bonne nouvelle, ça va être très court, mais c'est important, les bonnes nouvelles. On vous avait parlé d'un étudiant marié aux États-Unis qui avait été arrêté, et qui s'appelle Mahmoud Khali, et on vient d'apprendre, on a lutté pour sa libération, on vient d'apprendre qu'il a été libéré. Donc il avait été arrêté et détenu aux États-Unis pour avoir participé aux manifestations étudiantes pacifiques à l'Université de Columbia contre le génocide en cours à Gaza. Après plus de 3 mois derrière les barreaux, loin des siens, Mahmoud a enfin pu retrouver sa maison, il a pu serrer dans ses bras sa femme, il a pu tenir son enfant. Son arrestation n'avait rien de juste. Elle illustre une tentative plus large, brutale et inacceptable de réprimer la solidarité avec le peuple palestinien en s'appuyant sur un système d'immigration instrumentalisé et militarisé. Mahmoud n'a rien fait d'autre qu'exercer ses droits fondamentaux, s'exprimer librement, se rassembler pacifiquement et dénoncer l'injustice. Ses droits sont universels, ils doivent être protégés partout. Sa libération est la preuve que quand nous sommes nombreux à dire non, à signer, à nous lever ensemble, l'injustice recule. Mais le combat continue. Derrière chaque victoire, il reste d'autres injustices, d'autres Mahmouds, d'autres voix muselées. Voilà, c'était le communiqué d'Amnesty. Donc on est très heureux de fêter la libération de Mahmoud Khali aux États-Unis. Et on passe tout de suite à la deuxième pause musicale.
J'aime les gens de bonne compagnie. J'aime les gens contents d'être ici. J'aime les gens, j'en suis tout ébahi. J'aime les gens tout le temps. À part les enfants. Les mouflés, les mômes, les rejetons. Les gosses, c'est bien mignon, mais qu'est-ce que ça bouffe? Ça passe son temps à poser des questions. Ça veut dire quoi, waterproof? Faut les amener à l'école, préparer le petit déjeuner. En plus, ils supportent pas l'alcool, ils savent même pas faire le café. Trop jeunes pour les mettre au travail, ils t'apprennent la vie à 10 ans. Non, c'est vrai que je suis pas très marmaille, mais à part eux, j'aime les gens de bonne compagnie. J'aime les gens contents d'être ici. J'aime les gens, j'en suis tout ébahi. J'aime les gens tout le temps. Bon, à part aussi les personnes âgées. Les gens d'âge mûr, les abonnés au théâtre. Bon, appelons-les comme il se doit, les gens du septième âge. Les vieux, c'est vrai que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est lent. Et vas-y que ça entend rien, et vas-y que ça paye en francs. Faut leur laisser la place dans le bus, les aider à traverser. Ils causent avec leurs papyrus, ne font que jacasser. Ils se prélassent sous le soleil, ils se croient plus intelligents. Non, j'ai rien contre les cartes vermeilles, mais à part ça, j'aime les gens de bonne compagnie. J'aime les gens contents d'être ici. J'aime les gens, j'en suis tout ébahi. J'aime les gens tout le temps. Oui, bon, bon, à part aussi les ados. Les adolescents, les jeunes adultes. Tu vois ces gens qui sont pas tout à fait terminés. Ah non, je sais pas toi, mais moi, les humains en mutation, je peux vraiment pas. Pas du tout. Les jeunes, c'est bien sympa, mais qu'est-ce que ça flambe? Parce que ça a la vie devant soi, ce que tu me dis, ça me fait une belle jambe. Ça tire des coups et ça emboît, mélange du whisky à la bière. Ça explore avec les doigts en cherchant un style capillaire. Ça profite des allocs sur le dos des parents. Non, j'ai rien contre les dreadlocks, mais à part eux, j'aime les gens de bonne compagnie. J'aime les gens contents d'être ici. J'aime les gens, j'en suis tout ébahi. J'aime les gens tout le temps. À part aussi leurs parents aux jeunes. J'aime les gens tout le temps. Et les amis de leurs parents.
J'aime les gens tout le temps.
Et les amis de leurs amis.
Tout le temps.
Et puis les autres.
J'aime les gens.
Parce que c'est vrai, quand on réfléchit bien, les chiens ne font pas des chats. Comme dirait l'adage, tel grand-père, tel père, tel fils. Mais non, mais je les aime bien, les enfants, c'est juste qu'ils ont pas trop de discussions. Et puis les gens du 7ème âge, les aiment bien aussi. C'est juste que pour le coup, eux, des discussions, ils en ont un petit peu trop. Non, les adolescents, j'ai pas dit que je les aimais pas. Je les dis que je les apprécierais, mais plus tard, quand ils auront les cheveux propres et qu'ils seront un petit peu plus autonomes. Oh bah tu vois, ce petit solo de trompette, je l'aime bien aussi par contre. Oui, mais vous aussi, je vous aime bien, les musiciens. Bah tu vois, ce que je trouve super chez vous, c'est ce petit côté sympathique et détendu. En même temps, c'est normal que vous soyez décontracté. Vous êtes en vacances toute l'année. Oui,
de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on vient d'écouter Ben Herbert Larue, qui vraiment est un artiste de qualité. Il était à Ça sonne à la porte au dernier festival début juin. Et c'était une chanson qui s'appelle « J'aime les gens ». Il est inutile de dire effectivement que c'est tout à fait ironique et que c'est comme ça que les intolérances commencent, mais on ne sait jamais où elles s'arrêtent. Voilà. Je crois, Clairlys, que tu voulais nous parler. Alors, tu vas être obligée de décourter un peu parce que tu touches à la fin de l'émission. Mais un dossier important.
Allez, oui, vas-y. C'est un dossier important. Alors, je suis obligée de vous résumer. Donc, je ne sais pas, ça va être... Voilà. Je voulais vous parler quand même des conséquences qui sont déjà observées sur le terrain du gel des financements de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID. Donc, Donald Trump a décidé de ne plus... de geler ces aides. Et ces coupes ont entraîné l'arrêt brutal de milliers de programmes humanitaires. Et les équipes d'Amnesty International se sont rendues dans 12 pays qui ont été particulièrement impactés. Donc, vous dire quand même que 6,3 millions de personnes risquent de mourir dans les 4 ans à venir si l'aide américaine n'est pas rétablie, selon l'ONU SIDA. L'Agence des Nations Unies pour le Développement International, l'USAID, est le premier contributeur de fonds humanitaires au monde et il agit dans un spectre très large d'aide humanitaire dans 177 pays. En démantelant cette aide, l'USAID, avec une telle rapidité et brutalité, l'administration Trump provoque une onde de choc mondiale en mettant des millions de vies en danger. Alors l'USAID, c'est 63 millions d'euros d'aide fournie par les États-Unis en 2024, 32 milliards d'euros d'aide fournie par l'Allemagne en 2024, 18 milliards d'euros fournis par le Royaume-Uni en 2024 et 17 milliards d'euros d'aide fournie par le Japon en 2024. Donc, c'était le plus gros contributeur. Donc, il y a eu un rapport qui s'appelle, une étude qui s'appelle Life at Risk, qui montre les conséquences déjà dévastatrices de l'arrêt de l'aide américaine à l'échelle de 12 pays. Donc il s'agit d'une liste non exhaustive, mais c'est dans ces 12 pays que nos équipes ont récolté des informations de terrain. Donc voilà les retours par rapport à ces 12 pays. Donc je vais essayer de pas en oublier, mais d'aller quand même vite. Donc il y a l'Afrique du Sud, il y a un impact dévastateur sur les enfants vulnérables au VIH. Donc un représentant de l'une des ONG sur le terrain a déclaré à nos équipes que les États-Unis ont soutenu l'accès à la prophylaxie pré-exposition, des médicaments très efficaces pouvant prévenir le VIH chez les personnes à risque élevé. En mettant fin au financement de l'USAID, l'accès à ces médicaments sera limité. L'administration Trump laisse des personnes vulnérables sans soins et des personnes sans emploi. À Haïti, l'enfance volée par les gangs, les conséquences des coupes de l'USAID. À Haïti, c'était 60% de l'aide humanitaire, l'USAID. Les résultats, depuis le démantèlement de cette aide, les services d'accompagnement d'enfants ayant subi des viols ont fermé, laissant des jeunes filles sans les soins de santé urgents dont elles avaient besoin pour prévenir ou traiter le VIH ou d'autres infections sexuellement transmissibles. Au Yémen, ce sont encore les femmes et les filles les premières menacées. Donc le Yémen, c'est une région du monde où il reste l'une des plus graves crises humanitaires en cours. On compte 4,8 millions de déplacés à l'intérieur du pays et plus de la moitié de la population yéménite dépend de l'aide humanitaire pour survivre. Donc effectivement, ça a des conséquences redoutables. D'après les témoignages que nous avons recueillis, la réduction des financements américains avait déjà contraint à la fermeture de dizaines de lieux d'accueil sécurisés destinés aux femmes et aux filles en mars 2025. Idem au Guatemala, les jeunes filles sont sans suivi après les violences sexuelles, donc les centres ferment les uns après les autres. En Syrie, il y a un impact sur le camp d'Al-Hol, donc des dizaines de milliers d'enfants syriens, irakiens et ressortissants de près de 60 pays tiers sont piégés dans l'enfer du camp d'Al-Hol en Syrie depuis la chute de l'État islamique en 2019. Le camp compte environ 36 000 personnes, dont une majorité d'enfants. Plusieurs services essentiels à Al-Hol ont été temporairement suspendus, semant le chaos dans le camp. Et avant les coupures américaines, ils étaient surtout préoccupés. Alors déjà avant les coupures, ils étaient préoccupés par le secteur de la santé. En cas de crise cardiaque, les résidents du camp mourront sur place car il n'y a ni ambulance, ni équipement, ni aucun processus d'orientation pour les évacuer. Idem au Soudan du Sud, qui est ravagé, donc il y a 1,8 million de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays pour une population d'environ 11 millions. Il y a plus de 7 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. Un enfant sur quatre souffre de malnutrition selon le Programme alimentaire mondial. Et dans la plupart des camps de personnes déplacées par les conflits, la sécheresse et les inondations, la population dépend du financement américain, directement ou indirectement. Donc du coup, on les laisse mourir de faim. Allez. En Afghanistan, le danger est plus fort que jamais pour les personnes déplacées. Et donc, c'est pareil, la fin de l'aide étrangère américaine a eu de graves répercussions sur les personnes déplacées à l'intérieur du pays, avec des impacts encore plus forts pour les femmes et les filles. Sur 23 centres, 12 ont été fermés. Ils fournissaient à environ 120 000 Afghanes, rapatriés et déplacés internes, un logement, une aide alimentaire, une assistante juridique et un accès aux soins de santé. Donc les principales organisations humanitaires ont suspendu leur programme de santé d'approvisionnement en eau, ce qui a des conséquences dramatiques sur les femmes et les filles déjà invisibilisées et dont les droits sont bafoués. À rappeler que l'Afghanistan et le Pakistan, ce sont des pays directement impactés par le réchauffement climatique. Et le manque d'accès à l'eau, ça peut être dramatique. C'est pareil au Mexique. Alors là, c'est le désespoir des demandeurs d'asile à la frontière, hein, puisque les ONG... La perte de financement conduit à suspendre tous les soutiens sur le terrain, comme l'aide alimentaire mensuelle, l'accès à Internet, au téléphone, à l'électroménager, aux mesures de sécurité pour les demandeurs d'asile qui sont bloqués devant le mur et qui ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Au Costa Rica, c'est pareil, donc parce que le Mexique, c'est le dernier pays de transit pour des milliers de personnes exilées en quête de sécurité qui viennent souvent du Venezuela ou d'Haïti, par exemple. Idem au Costa Rica, les services essentiels ont été obligés de couper, et c'est aussi un pays important de transit de personnes en quête de sécurité venues du Panama ou de la Colombie et qui sont en route vers les États-Unis. Donc les organisations locales venant d'aide aux demandeurs d'asile ou aux personnes exilées sont contraintes de réduire, voire de fermer leurs programmes d'aide alimentaire, d'hébergement, de soutien psychosocial. Et ces coupes qui affectent gravement la capacité du Haut Commissariat aux réfugiés à fournir une assistance humanitaire aux réfugiés et aux demandeurs d'asile au Costa Rica. Il y a aussi la République dominicaine, donc c'est le calvaire des personnes qui ont été expulsées vers Haïti, contrairement au droit international. Et donc les organisations le long de la frontière, pareil, sont obligées de fermer, donc ne peuvent plus fournir l'aide alimentaire et l'aide au transport, le soutien psychologique. En Thaïlande, après le coup militaire en février 2021, la junte birmane mène une lutte sans merci contre toute forme d'opposition, et donc il y a près de 6000 personnes qui ont été tuées et il y a plus de 20 000 personnes qui sont détenues arbitrairement. Il y a 3,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et la situation est particulièrement critique dans le sud-est de Myanmar et dans les camps de réfugiés déplacés internes le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Donc les coups brutales, vous voyez ce que ça fait, c'est l'arrêt de l'aide alimentaire, l'arrêt des soins, l'arrêt des soutiens psychologiques ou juridiques, voilà. Donc ces coupes brutales opérées par l'administration Trump mettent en péril le soutien humanitaire et les infrastructures permettant à des personnes déplacées de force dans le monde d'accéder à une protection. Cela expose des personnes déjà marginalisées à des dangers encore plus forts. Nous demandons au gouvernement américain de rétablir immédiatement ces financements, d'autant que l'administration Trump a contourné la supervision exercée par le Congrès pour prendre cette décision, ce qui est contraire au droit national. Voilà.
Bon, donc effectivement.
Donc il te reste 4 minutes pour conclure. Donc, vas-y, fais court.
Oui. Donc effectivement, toutes ces mesures, on les avait déjà évoquées, mais tu as bien fait de les détailler, Perlis. Toutes ces mesures, effectivement, sont déjà des mesures qui aboutissent à la détérioration de l'état de santé.
C'est 12 pays sur 177, je viens de vous dire.
Oui. Et donc aboutissent à la détérioration de la santé, à des morts prématurées, etc., etc. Ce sont des décisions qui sont absolument criminelles et dans lesquelles, effectivement, la solidarité humaine n'a bien évidemment aucune place, et surtout, elle n'améliorera absolument la situation de personnes, bien au contraire, y compris la situation des gens dans les pays qui ont mis en place dans les gouvernements ce genre de personnages comme Trump. Ça se retournera forcément contre eux un jour ou l'autre. Donc voilà, il faut bien réfléchir quand on est appelé à voter.
Et alors, c'était notre dernière émission de l'année, vous pouvez écouter nos podcasts, le podcast de notre émission du 18 juin sur la Journée mondiale des réfugiés qu'on a passée à Gaillon ensemble avec Didier et qui est sur Fréquence Droits Humains. Une très belle émission.
À l'invitation d'Accueil Service de Gaillon, qui nous a très gentiment accueillis.
C'était très très sympa comme émission et on a eu beaucoup de plaisir à rencontrer les réfugiés, les personnes qui étaient en attente pour présenter leur demande d'asile, qui étaient des personnes dublinées. Quelques-uns ont le statut de réfugié, d'autres sont en attente de la réponse de l'OFPRA ou de la CNDA. Mais c'était vraiment une journée très chaleureuse.
Tout à fait. Et donc, en parlant de podcasts, vous avez ces podcasts Fréquences Droits Humains sur le site principactif.net. Vous avez aussi tous les podcasts des émissions d'Amnesty de l'année et des années antérieures. Donc, si vous avez le temps pendant l'été, réécoutez ceux qui vous inspirent.
Si vous voulez réécouter notre émission spéciale 18 juin, aujourd'hui, 24 juin, vous pouvez.
Le podcast sera mis en ligne dès demain ou après-demain ou plus tard. Voilà, vous pouvez le réécouter très vite. Donc voilà. Et puis juste pour finir, il nous reste une minute. Je voulais faire non pas une rubrique culturelle, mais un petit conseil de lecture. Je viens de lire un livre qui explique très bien les fondements de la violence et ce pourquoi la violence, effectivement, n'aboutira jamais à rien, qu'elle soit la violence d'État, la violence domestique, la violence des sectes, etc., etc. Le livre s'appelle « 7 leçons sur la violence ». C'est écrit par un philosophe contemporain qui s'appelle Marc Crépon aux éditions Odile Jacob. C'est très simple à lire, c'est très, comment dire, didactique, c'est très bien fait et on en ressort effectivement avec plein de choses dans la tête très positives et ça fait du bien en ce moment. Voilà, cette leçon sur la violence, si vous avez le temps de cet été, lisez-le. On se quitte, on se retrouve donc le 16 septembre en direct sur l'antenne de Principe Actif et d'ici là, très bon été à tous.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.